Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de séance. C'est Areski Sugar qui vous parle. Pour vous dire que je suis en spectacle actuellement au Théâtre Beau-Saint-Martin à Paris. Donc si vous voulez venir voir une superbe heure de stand-up, n'hésitez pas à prendre vos places. Il reste des places pour les trois dernières représentations de la saison. Le 15 juin, 28 juin et 12 juillet. N'hésitez pas à aller sur Bireduc ou suivre les liens depuis la description du podcast ou aller sur sugarfree.com. Merci à tous. Profitez bien de cet épisode. Bisous. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de séance, épisode numéro 33, je crois.
Ouais. Quelque chose comme ça.
Qui va parler de Premier Contact, film de Denis Villeneuve. Avant ça, on va parler des dernières bandes annonces qu'on a pu voir, des news ciné. J'ai oublié de vous présenter et de me présenter. Bonjour, je m'appelle Areski.
Ouais, c'est Baptiste.
Et moi, c'est Arnaud. Et bonjour.
Voilà, bonsoir à vous tous, comment allez-vous? Bon, The Spider-Man, j'ai trouvé sympa, mais je m'attendais plus ou moins à avoir ces petits peps de comédie, de choses comme ça, puisque le personnage avait déjà été introduit dans Captain America 3 Civil War par le personnage d'Iron Man. Et donc Robert Downey Jr. est tout le temps dans la comédie. On connaît le personnage de Peter Parker qui lui aussi aime bien balancer ses petites lignes de drôlerie avant d'enfiler des toiles sur le bouffon vert, etc. Donc c'était plaisant. Après, est-ce que le film va être intéressant?
Après, le truc, c'est que comme un peu à chaque fois avec Marvel, j'ai l'impression qu'ils me revendent exactement la même sauce. C'est-à-dire qu'à la base, quand on me parle de Spider-Man et surtout des débuts de Spider-Man, je pense au lycée. Je pense au photographe stagiaire du Daily Planet. Ici, on voit ni l'un ni l'autre. Et j'ai l'impression qu'on va avoir une histoire d'affrontement.
Du Daily Bugle. Planet, t'es en train de te tromper là. Okay.
Je vois rien de tout ça. Donc j'ai l'impression qu'ils vont me revendre en fait la structure d'histoire à la Marvel et que ça va être la même chose.
Exactement.
Ouais, tu penses ça à peu près?
Ah bah la bande annonce, j'ai l'impression de voir la bande annonce qu'on avait vue pour Iron Man ou dans une autre sauce un peu peau de poule, le côté un peu
de pas se prendre au sérieux.
Exactement. Ça devient relou, il y a aucune originalité. Je sens déjà que vous voulez spoiler, il va gagner à la fin, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est chiant, quoi. C'est
trouvé qu'il crève. Genre, tu sais, il le reboot et il meurt direct.
Bah, ce serait super. Je t'avoue que ce serait vraiment couillu, quoi, de faire ça.
On est quand même en train de parler d'un super-héros qui s'est fait rebooter. C'est la troisième fois
en
10 ans.
C'est chiant. Quoi.
Ouais, quelque chose comme ça, ouais.
C'est quand même assez fou de le rebooter.
Le premier reboot était particulièrement moisi. Enfin, le deuxième, enfin, tu vois ce que je veux dire, le remake, le.
Ouais, le.
The Amazing Spider-Man, quoi. Ouais, qui était nul à chier, ouais.
Enfin, moi, c'était surtout la suite, The Amazing Spider-Man 2. C'est vrai que j'avais trouvé ça très très nul. Bon, ils tombent toujours dans le travers de. Je sais pas pourquoi ils ont envie de foutre en l'air Spider-Man. Enfin, c'est pas un personnage que j'adore, mais ils aiment bien le foutre en l'air avec des milliers de vilains. Qui se disent. Ils se disent c'est pas assez de parler que d'un personnage. Il faudrait qu'ils se battent contre 6 personnes.
Mais c'est parce qu'à la base, en fait, la plupart des méchants de Spider-Man sont pas ouf. Et du coup, ils en balancent plein pour compenser, j'imagine. Je sais pas.
Après, je vais dire Spider-Man, il est chiant. Enfin, tu vois, genre, il est au lycée et tout. Ouais, ok, d'accord, mais je sais pas.
Bah, après,
tant mieux pour toi, genre, utilise tes pouvoirs pour avoir de meilleures notes, j'en sais rien.
Ah, Arnaud a raison, c'est-à-dire que tu prends un personnage comme Superman, il a sa némésis qui est Lex Luthor, qui est vraiment le contraire, l'humain, donc la vulnérabilité, mais avec l'intelligence au service de cette vulnérabilité. Tu prends Batman qui est hyper sérieux, t'as sa némésis qui est le Joker, qui est vraiment le type complètement fou, allié, dont les réactions sont totalement anarchiques, contrairement au Batman qui est très réfléchi, très pensé, alors que là Spider-Man de grands grands méchants qui lui soient vraiment opposés chez lequel
en fait, a la panoplie des méchants avec des mobiles totalement différents
et des mauvais costumes
oui c'est le scientifique qui est devenu blablabla bla bla, etc.
Le seul truc qu'ils ont en commun, c'est ce sont des animaux aussi. Hey,
Ouais.
Eh, l'araignée, le vautour, le rhinocéros, mais c'est vrai, en plus, il y a...
En fait, ça n'a jamais évolué en fonction des airs, en fait, des périodes, tu remarques, parce que c'est vrai que c'est il avait été inventé dans les années 60-70, et en fait, tu sais, autant tu vas excuser des vilains comme ça à l'époque, dans les BD, autant maintenant, ça peut plus passer, il faut qu'il y ait quelque chose de plus, et c'est vrai qu'ils sont toujours restés dans la bonhomie de ce personnage. Je pense que c'est un bon personnage pour faire des team-up, mais après, de le voir tout seul... Parce que, tu sais, il a pas la prétention d'un Avenger, mais en même temps, il a pas le côté obscur d'un Punisher ou d'un Daredevil qui va régler les problèmes que dans un quartier. Donc il est un peu entre les deux, mais pas si intéressant. Enfin, moi, c'est ma façon de voir. Après, j'imagine qu'il y a des gens qui nous entendent qui sont trop fans de Spider-Man.
Oui, non, mais c'est le. C'est justement ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, c'est le héros de proximité. C'est un peu comme l'épicier du coin, en fait. C'est l'équivalent épicerie du coin de Spider-Man et Batman, quoi.
C'est le Carrefour Market.
Le Carrefour Market, voilà. C'est...
Parce qu'il prend tout le Queens quand même, tu vois, il se balade et parfois il vient à Manhattan.
Je pense que ça fait partie aussi du personnage et c'est peut-être pour ça qu'en France on a peut-être moins de capacité à se l'approprier. C'est que quand tu regardes Superman ou Batman, ce sont des héros de villes imaginaires qui n'existent pas. Alors que Spider-Man, c'est le héros de New York. Et donc,
je pourrais te dire ça pour plein de héros de Marvel qui quand même fonctionnent aussi bien.
Sur des villes réelles.
Hein. Ouais, genre, comme je te dis, Daredevil c'est sur Hell's Kitchen, tu vois, c'est sur un quartier de Manhattan. Donc c'est pas... Je pense que ça dépend de l'angle du coup.
Non, mais c'est ça, parce que je suis sûr que tu peux en faire quelque chose d'intéressant si t'en fais un film d'école à la John Hughes, tu vois. Un teen movie à la John Hughes, tu peux faire ça, tu vois.
Ouais, carrément. Et que l'objectif du film, c'est qu'il regagne le cœur de Gwen ou de Mary Jane et qu'à la fin, il tienne une boombox au-dessus de sa tête et qu'il fasse...
Ben voilà.
Et ça, c'est intéressant.
Moi, je signe, hein.
Moi, de toute façon, c'est ce que je dis pour tous les films de super-héros. En fait, je veux pas un film de super-héros, je veux un film et il se trouve que le héros est un super-héros. Tu vois. C'est comme ça que tu fais un très bon film.
Oui, hypocrite, tu veux des effets spéciaux aussi, un peu quand même.
Parce que il se trouve que c'est un super-héros. C'est, franchement, The Dark Knight, pourquoi ça marche si bien? C'est parce que c'est un polar, c'est un thriller.
C'est vrai, c'est vrai.
Et il se trouve que le gars, il a plein de gadgets et que le méchant, c'est le Joker. Donc, tu veux. T'extrapoles tout ça et tu utilises tous tes personnages et c'est pour ça que tu fais un très bon film.
Il y a une
et
proposition
plus,
de film.
Un très bon film.
Il y a une proposition
avec
de film.
Avec super. Ouais. Si tu fais juste un film pour montrer effectivement des lasers, c'est bon. Je vais regarder Jean-Michel Jarre et c'est réglé.
Un doc sur le CNRS.
Ouais, c'est ça, exactement. Oh, j'adore ton accélérateur de particules. C'est terminé. War of the Planet of the Apes, ça c'est quelque chose qui m'a plus botté hein, comme bonne annonce. Parce que je vous avoue que moi, la franchise, je la trouve pas mal, en fait. Je trouve que c'est assez rythmé dans chaque épisode. Je trouve que ça amène petit à petit vers cette icône du cinéma qui est la planète des singes.
Ouais.
Tu te dis, ah ouais, ça, je vois comment ceci pourrait amener à cela et comment ça pourrait amener à la planète des singes.
Il y a quand même des petites incohérences quand même. Comment est-ce qu'une vingtaine de singes dans un zoo vont d'un seul coup contaminer toute une planète?
Ça, c'était dans le premier.
Dans le 1, ils ont expliqué
qu'il y avait un
gaz en fait qui pouvait se propager comme un virus qui a petit à petit contaminé tous les singes de la planète en fait.
Ouais, parce qu'il
l'avait ramené
avec
tous les singes de la planète, il en reste plus beaucoup hein, sur la planète des singes quoi.
Écoute, après il en a trouvé. Hein, écoute, il a pris tous les zoos déjà qu'il y avait au nord des États-Unis.
Tu sais, les bonobos ils s'y sont mis quoi. Enfin,
ça va vite. Ils ont plusieurs portées, petits par portée, tu crois.
Je sais pas quand même.
Non, c'est
les primates, c'est.
Enfin, la bande annonce elle donne envie. De toute façon, j'adore.
Bienvenue dans le podcast Primates où on ne parle que des gestations des chimpanzés et des orangs-outans. Vous avez bien aimé vous. Moi, les deux premiers, donc c'était les origines. Attends, c'était les origines.
Ouais.
The Dawn of the Planet of the Ape et.
C'était l'horreur. Ah non, oui.
Et le deuxième, comment il s'appelait?
War. Non, le soulèvement.
Ouais,
le soulèvement. Rise of the Planet of the Apes. Les deux premiers, j'avais bien aimé, surtout le premier en fait.
Ouais,
avec James Franco. Ouais.
Le deuxième, il y avait des très bons moments, mais pas tout. Et je trouve que le film, il s'est soufflé au bout d'un moment. Il y avait des belles idées qui n'étaient pas exploitées jusqu'au bout. Là, qui fait ce nouvel épisode? Est-ce que c'est le réalisateur du 1, Rupert Wyatt? Je l'avais trouvé excellent.
Lance ta petite recherche pendant que. pendant que je vois.
Alors c'est Matt Reeves qui a.
Ah c'est Matt Reeves. Matt Reeves c'était Cloverfield.
C'était Cloverfield et ouais. C'était Cloverfield exactement et c'était le co-scénariste de The Yard.
Ah Let Me In aussi il l'avait fait qui est très bien.
Ouais moi je suis pas.
Ah si moi j'avais bien aimé.
Moi j'adore l'original, celui le norvégien d'ailleurs. Ouais. Mais
c'est une copie carbone le film que qu'a fait Matt Reeves ouais. de.
Mais moi j'y crois moins avec. Avec des accents américains, j'ai moins peur, tu vois.
Non, mais je suis d'accord que l'ambiance était meilleure dans le premier. Hein.
Ah ouais, l'ambiance, j'avais froid quand je regardais le
film. Non, je me suis fait chier dans la version norvégienne.
Ah ouais ?
Ouais, complètement. Mais après, j'aime tellement Chloé Grace Moretz que.
Moi aussi, je l'adore, hein, mais bon, quand tu regardes la cinquième vague, c'est quand même de la merde. Hein,
Ah oui, bah évidemment. Évidemment
ah, oui. Mais c'est Roma Trives, oui, effectivement.
Ouais.
Pour la guerre de la planète singe. Et. Woody Harrelson qui a l'air vraiment génial dans ce film.
Il se rase bien le crâne en tout cas.
Ouais, il le fait avec le charisme d'un Vin Diesel ou d'un Marlon Brando. De se raser le crâne. Je tends la confrontation Andy Serkis qui joue donc à chaque fois le
César.
César, le héros du côté des singes et Woody Harrelson, ça a l'air d'être maintenant là deux guerriers face à face parce que là
mais c'est même
plus
pour ça
on va
que...
vers la
pour ça qu'il se rase le crâne. Il y a un côté de schéma d'opposition, il se rase le crâne pour plus avoir de poils par rapport à ceux qui sont encore pollués. Non mais je pense
ouais, non, mais oui,
comme
complètement
ça.
Moi je crois qu'il y a,
ouais,
y a
c'est ceux qui n'ont pas plus de poils comme les êtres humains qui se battent contre ceux qui se soulèvent qui
ouais,
sont les pollués.
Il veut s'extraire de ça de son côté primate justement.
Ouais. C'est un peu en fait une métaphore de la communauté portugaise et de son intégration.
Je trouve que ce que tu viens de dire est extrêmement raciste.
C'est vrai.
Je suis
c'est
offensé
vrai.
Par ça.
C'est vrai.
Je vois qu'il y a aussi Steve Zahn et Judy Greer à l'intérieur, mais bon, j'imagine que ce seront des seconds rôles assez peu mis en avant. Mais c'est vrai que plus on va vers ces films qui, dans la chronologie de la planète des singes, plus on quitte le civil, plus ça va vers vraiment la confrontation pure guerre, même si à chaque fois, bien sûr, il y a des batailles, on va dire. Mais là, c'est je pense que c'est un pur film de guerre.
Les premiers retours disent qu'il est hyper violent. Hyper
ah ouais
violent, ouais.
Bon, bah, ça va être bien, là.
D'ailleurs, les premiers retours sur Alien Covenant sont extrêmement positifs et disent que c'est ultra gore et ultra violent.
J'ai vu que effectivement quelques cinémas avaient passé quelques scènes
ouais
et que les gens avaient peur. Mais bon, ça, est-ce que j'y crois
oui,
encore
c'est de la promo.
Voilà, c'est de la promo où n'importe quelle Paranormal Activity qu'on te sort, les gens aiment bien.
Oh, le dernier faisait peur, plus que tous les autres. Le dernier, il avait vraiment chiadé, je trouve.
Je
l'ai vu au cinéma, j'ai eu peur. Pourtant, je regarde beaucoup de films d'horreur et là, j'ai vraiment j'ai sursauté, j'ai eu peur.
Ouais, mais je te fais pas confiance.
Je suis fragile aussi.
Peur facilement, toi.
Ouais.
Yeah, oui, on avait parlé aussi hors antenne de. Assassin's Creed, comme quoi ils avaient passé quelques extraits. Et c'est vrai que là, tu peux voir des extraits et ça avait l'air moisi.
Allez,
c'est
les
mal réalisé.
Retours sont négatifs et même la production commence à faire marche arrière sur le marketing. Je sais pas si t'as vu, c'est au niveau pub et tout, ils en font pas des caisses, ils en ont pas beaucoup parlé.
Ils en avaient fait pas mal il y a un mois, deux mois, et c'est vrai que
mais alors,
qui va sortir dans deux semaines, c'est bizarre.
Qui l'a écrit? Parce que j'ai envie de dire que les scénaristes des jeux vidéo Assassin's Creed sont quand même très très moisis, quoi.
Peut-être pas du 2, hein. Le premier, c'est vrai que, comme tout le monde me le rappelle, c'est un peu chiant. Mais le 2, tout le monde dit que c'est génial.
C'est peut-être génial à jouer, mais par contre, le scénario est extrêmement mauvais. C'est genre, c'est niveau enfant de 12 ans, quoi.
Je suis d'accord.
Ah ouais, après, je dis ça, mais je suis en plein, je suis en plein milieu du 1 depuis 10 ans, ouais. Parce que j'aime bien être méthodologique et je ne veux pas commencer à jouer à un autre qui est soi-disant meilleur tant que j'ai pas fini. Ouais. Bon, après le réalisateur, à part Macbeth, au final, les autres choses qu'il a faites, c'est pas très très connu.
Si, ouais. C'est Les Crimes de Snowtown, qui est son premier film, qui était vachement bien, et Macbeth, qui était pourri par contre.
Qui est pas très.
Ça parlait de quoi, Snowtown?
C'était un petit polar australien.
Ah, d'accord.
C'est une histoire australienne de consanguinité un peu chiant. Non, mais
et ça se passe pas à Lille?
Ça pourrait.
Ça se passe l'île d'Australie.
En fait, c'est juste au nord de Sydney. C'est un film qui pourrait être un film de Bruno Dumont, Les Crimes de Snowtown. Voilà.
Ah oula, carrément. Ok. Bon, ouais, ce sera à voir là. Moi, je l'ai pas vu, j'avoue, ce film.
Et l'autre, Turning.
Macbeth, j'avoue que c'est l'une de mes pièces préférées. Mais le film, c'était poussif. Hein.
C'était de la moisissure.
À ce moment-là.
Trop violent.
Ah merde.
Ouais, non, c'était pas très bien. Moi qui adore.
Le voir.
C'est assez difficile de mettre en image une pièce de Shakespeare, et je pense qu'il faut vraiment y apposer sa patte, faut pas avoir peur, tu vois. Et autant choses comme Baz Luhrmann pour Roméo plus Juliette, autant même Ralph Fiennes pour Coriolanus, etc., c'était vraiment bien. Pardon. Autant là, autant Macbeth, ouais, c'était un peu c'était nul en fait. C'était comme si on voulait vraiment juste mettre faire quelque chose d'assez classique en fait. Donc c'était pas super. Ça m'a rappelé le Hamlet de Kenneth Branagh, mais en moins bien. Donc c'est chiant, quoi.
Mais non, mais parce que déjà le Hamlet de Kenneth Branagh, au moins, reprenait le texte intégral. Là, il y a des coupes. Franchement, je pense que si t'as pas lu la pièce avant, je suis pas sûr que tu la comprennes en regardant le film déjà.
C'est possible en plus. Ouais.
Non, puis Marion Cotillard, j'en peux plus, quoi. C'est un peu The New Cadmerat, quoi. C'est Marion Cotillard et The New Cadmerat, quoi.
Moi, j'aime bien Marion Cotillard.
Mais.
T'as vu ses yeux là,
oh,
ses
oui.
yeux, le mec amoureux là quand il dit ça.
Moi j'aime bien Marion Cotillard.
Il le dit parce que, enfin, vous le voyez pas, c'est pour ça qu'on fait plus les vidéos hein, sur France Science, mais derrière il a deux énormes posters de Marion Cotillard. un de Taxi 1 et l'autre de Taxi 2.
Et j'ai le 4 dans ma chambre aussi. Ouais, je joue plus d'ailleurs, mais bon.
Ouais. Mais juste adore les taxis. Mais très bien. D'autres trucs à dire? Non, je pense qu'on peut passer directement au film. Oui, je vais représenter le film parce que maintenant vous l'avez oublié. Donc, Denis Villeneuve, qu'on adore.
Hein, qu'on adore.
Qu'on adore. Il avait fait des films comme Incendie, Prisoners, Enemy. L'année dernière, il nous avait foutu une énorme claque avec Sicario. Donc aujourd'hui, il se met à la science-fiction avec Premier Contact, sorti le 7 décembre 2016 avec Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker.
8 heures après l'atterrissage, il n'y a toujours aucun signe de Premier Contact. Les objets font plus de 450 mètres de haut.
Maman, qu'est-ce qui va se passer?
Je sais pas.
D'autres objets similaires ont atterri partout dans le monde.
Docteur Banks, je suis le colonel Weber. Tout le monde vous considère comme la référence en matière de traduction. Je dois vous demander de traduire quelque chose pour moi.
Ce sont les...
Tout le monde n'est pas capable d'intégrer ce genre d'expérience. Et la dernière fois que vous avez fait quelque chose de stressant.
Y compris maintenant. Il nous faut des réponses dès que possible.
Ce qu'ils veulent, d'où ils viennent.
Qu'est-ce que vous avez pensé de Premier Contact?
Bien,
l'histoire, c'est que Baptiste m'a envoyé un message avant que je le voie, où quelque part, il m'a un peu spoilé parce qu'il m'a dit « Je sors de la séance, j'ai pleuré ». Tu vois, rien qu'en me disant ça, déjà, il m'a spoilé, tu vois. Parce que je me dis, Baptiste, il aime les films où ça parle de maman et d'enfants morts, tu vois. Donc, je me dis, voilà. Bon, après, je spoile rien en disant ça parce que c'est littéralement la première seconde du film. Et j'en parlerai juste après.
Mais il y a juste quelque chose de dire avant. Je pense que la première partie de ce podcast va être assez courte parce que quasiment tout est du spoil là dans celui-ci.
C'est vrai. Si on veut pas.
C'est très dur.
Ouais, pour les trucs que j'aime pas qu'on entende, pour effectivement pas me spoiler, surtout pour un film de SF où c'est un intelligent et important. Voilà, je te laisse parler. Du coup, qu'est-ce que t'as aimé? Qu'est-ce que t'as pas aimé? J'ai l'impression que t'as tout aimé dans ce film.
J'ai absolument tout aimé dans ce film et je veux le défendre bec et ongle, quoi. On pourrait tellement dire deux choses. D'abord, l'actrice principale, elle est incroyable. Elle est incroyable, tout ce qu'elle fait passer en un regard, en un geste, toute cette humanité qu'elle décrit. Elle nous fait vraiment pénétrer dans le corps de quelqu'un qui, d'un seul coup, est confronté à un truc incroyable et qui nous dépasse complètement et qui nous effraie. Et donc, on ressent avec elle, on a peur avec elle. Ensuite, la musique est juste incroyable. Le travail qu'il y a sur les sons est juste fabuleux. Les images, la photographie, il y a un côté malikien dans tout le film. Moi, j'avais pas ressenti ça depuis que j'avais vu Tree of Life, pour te dire à tel point j'ai été bouleversé, quoi. Ensuite, l'histoire est juste tout, tout ce que ça brasse de questions philosophiques, métaphysiques, et de ce que ça dit du monde et de l'état des hommes qui sont incapables de se regarder les uns les autres et de simplement communiquer, moi, ça m'a bouleversé. Ce film, il ne dit pas autre chose que communiquer est quelque chose d'impossible et d'incroyablement difficile, et peut-être que tout le malheur du monde vient de cette difficulté-là à communiquer. Et apprenez à communiquer, et vous verrez, et vous arriverez à changer et à rendre ce monde meilleur. Et il est extrêmement positif, le message du film. Extrêmement positif. Il est beau. Et... Bref, j'ai été bouleversé, quoi. Bouleversé. Et l'autre, Areski, qui m'envoie à la fin de sa séance, oui et non, en parlant du film, alors que c'est juste la plus grande claque de l'année 2016, quoi.
N'importe quoi. Ok, bon, bah très bien, mais oui, très bien. Je dis pas que t'as pas le droit.
J'espère qu'Arnaud sera d'accord avec moi.
Écoutez, voilà ce que je peux dire. Alors, après que tu m'aies envoyé ton message de j'ai adoré, j'ai pleuré, je sais pas quoi, je me suis dit, j'espère que dans ce film, contrairement à Gravity, Contact et Interstellar, ils vont pas encore nous redonner un film où le protagoniste a perdu ou un enfant ou quelqu'un de sa famille.
Mais c'est ça.
C'est pas que je trouve ça mauvais, et d'ailleurs j'adore Gravity et j'adore Interstellar. Pour moi, c'est littéralement, ça va dans mes films préférés. Et je trouve que c'est quand même assez bizarre qu'on adore, enfin, qu'il y ait encore ça dans un film de science-fiction. Encore une fois, quoi. Et moi, genre, j'en ai un peu marre de revoir ça. Alors, bien sûr, c'est pas parce qu'il y a ça dans la première scène que je vais commencer à juger le film différemment, même si j'avoue que ça m'a un peu fait chier, parce que je me suis dit c'est quand même un peu bizarre que... Parce que même dans Contact, je sais pas si vous vous souvenez de ce film avec Jodie Foster, il y a tout ce truc de j'ai perdu mon père et quand je vais voir des aliens, c'est mon père qui me parle ou des choses comme ça. Enfin, là je spoil rien du tout de ce film, ça a aucun rapport, mais c'est juste pour dire que il y a toujours un peu en filigrane ce truc, et je sais pas ce qui se passe dès que les scénaristes, j'ai l'impression, doivent partir dans l'espace, ils se disent oui, mais tu leur un enfant. je sais pas pourquoi. Après voilà, il est plutôt, c'est super bien maîtrisé, j'aime bien la musique. J'ai beaucoup aimé la mise en scène du et comment on t'amène petit à petit vers là-bas, même si j'ai jamais été très très ébloui, ou en tout cas on m'a jamais fait vibrer dans les scènes qui étaient soi-disant spectaculaires. Je sais pas si c'est parce que c'est quelque chose de vu mille fois et qu'il y a pas vraiment d'originalité dans ces scènes-là, dans la mise en scène, mais moi, quand on s'approche des vaisseaux qu'on voit déjà dans l'abondance, etc., j'ai pas trouvé ça vraiment incroyable. Je trouve qu'il y a des sauts également un petit peu faciles dans l'avancée de certaines choses, de certaines explications. Voilà, là encore une fois, je sais que je suis très cryptique, mais pour pas rentrer dans les spoilers, mais il y a des choses qui sont intelligemment brossées dans justement la communication, puisque l'héroïne est une linguiste que l'on veut enrôler dans ce premier contact avec... des aliens. Dès qu'on rentre dans les mécanismes des choses, je trouve que parfois ça jump assez rapidement pour tout simplement arriver là où on veut au niveau de l'intrigue, que c'est un peu facile, je trouve, pour moi, et que de manière générale, moi je trouve que ça pêchait dans l'émotion, parce que moi j'ai pas ressenti grand chose. Et pourtant, non mais encore une fois, pourtant je suis quelqu'un qui adore et qui rentre tout de suite dans l'empathie de Sandra Bullock dans Gravity ou de Coop dans Interstellar. J'ai quand même bien aimé ce film, hein, qu'on soit d'accord, hein, et je pense que je vais être un peu plus... je vais dire un petit peu plus les choses que j'ai bien aimées dans la section spoiler, parce que sinon, ça va être un peu vendre le film, là, mais voilà. En gros, ça m'a déçu, parce que je me suis dit, Denis Villeneuve dans de l'ASF, ça va vraiment être génial, et voilà.
Et ça a été formidable.
Arnaud, qu'est-ce que...
Non, mais après, moi, j'ai beaucoup aimé, je suis plutôt d'accord avec Jean-Baptiste sur ce point-là. Moi aussi, j'ai chialé, mais je chiale toutes les semaines au cinéma, donc c'est pas vraiment c'est pas vraiment un baromètre pour voir si le film était bon ou pas. J'ai beaucoup de choses à dire sur le film, énormément, mais tout ce que j'ai à dire, ça va spoiler énormément de l'histoire. Donc j'aimerais juste un petit peu parler de la mise en scène de Denis Villeneuve, qui va pas énormément spoiler. C'est que cette dernière semaine, en fait, à part ce film au cinéma, j'ai vu J'ai vu que des films qui m'ont pas plu. Et quand je suis arrivé dans Premier Contact, dès le premier plan, j'ai tout de suite vu qu'il y avait quelqu'un derrière la caméra, tu vois, qu'il y avait une maîtrise de la mise en scène qui était absolument évidente. Et il y a plusieurs choses que j'aime à dire. C'est déjà ce que j'aime énormément et toujours chez lui, c'est son sens du rythme, la manière dont il rythme une conversation, dont il laisse des moments de silence dans les conversations pour essayer de construire quelque chose, de nous faire comprendre en fait l'impact de tout ce qui est dit sur les personnages. Et l'exemple parfait justement, c'est la première scène où ils rentrent dans le vaisseau spatial des extraterrestres. Cette scène est très très longue et c'est une scène tout en anticipation, c'est-à-dire que si cette scène fonctionne sur la longueur, c'est parce qu'il y a une anticipation énorme de ce qui va se passer. Et au fur et à mesure qu'on rentre dans ce vaisseau, ces scènes vont être plus courtes parce qu'il n'y a plus besoin de cette anticipation une fois qu'on a installé la chose. Et c'est quelque chose, c'est con à dire, mais c'est quelque chose en fait que je retrouve de moins en moins dans le cinéma hollywoodien. J'aimerais peut-être que tu donnes le lien vers une vidéo de Tony Zhu qui fait une comparaison entre le montage de Blockbuster dans les années 80 et de Blockbuster aujourd'hui pour montrer la différence de rythme qu'il peut y avoir entre ces films. Et il donne un exemple que je trouve superbe, qui est dans l'Empire Contre-Attaque, le moment où il y a Luke Skywalker qui essaie de soulever le X-Wing par la force.
Ouais.
Il fait une analyse en fait de la durée des plans dans cette scène. Et tu remarques que au début, il y a des longs plans où il tend sa main vers le lac pour essayer de soulever le X-Wing. Et au fur et à mesure qu'il se concentre et que le X-Wing commence à bouger, les plans deviennent de plus en plus courts pour arriver jusqu'à l'apogée de la scène qui est la tentative de soulever le X-Wing. Et là, ça échoue. Et une fois que ça échoue, il y a les mêmes plans qu'on avait vus au début pour nous montrer l'anticipation en fait de l'utilisation de la force. Ces plans nous sont remontrés et sont deux fois plus longs pour essayer de bien nous faire comprendre l'échec qu'il y a eu et le fait que Luke n'arrivait pas à soulever le X-Wing. Et cet échec dure très longtemps et ça nous permet en fait de jauger ça, de jauger cet échec. Et ensuite il fait un parallèle avec une scène similaire de l'année dernière dans Ant-Man, où en fait Ant-Man essaie de communiquer avec des fourmis, donc il essaie d'utiliser ses pouvoirs pour la première fois. Et là par contre, quand tu analyses les plans, tous les plans font exactement la même durée. Il n'y a pas une progression rythmique dans la scène.
Ouais.
Et ensuite il échoue, et une fois qu'il échoue, il n'y a pas ce temps pour nous permettre de jauger cet échec. On passe tout de suite à la scène suivante. Ça fait que si tu veux, l'émotion n'a pas le temps de s'installer. Et Denis Villeneuve en fait, il comprend bien qu'on a besoin de ces temps-là pour installer les choses. Et je pense que c'est en ça qu'il est vraiment un grand réalisateur. C'est cette manière, en fait, de rythmer ses scènes par la direction d'acteur, par le montage, par tout ça. Et l'autre chose, c'est essayer de nous transmettre, en fait, l'étrangeté de l'approche de ce vaisseau. Je trouve qu'il le fait d'une belle manière. C'est quelque chose qu'il avait déjà fait dans Enemy. C'est-à-dire qu'il se tourne vers l'art contemporain. Dans Enemy, il avait utilisé les sculptures de Louise Bourgeois pour nous montrer cette espèce d'araignée géante sur la ville de Toronto qui arrive ici. Et ici, quand il nous montre par exemple ce vaisseau spatial, il nous montre la coque, et on a une coque très rugueuse comme ça, qui est faite de matière, qui peut rappeler l'étoile de Soulage, tu vois, ou quelque chose comme ça.
On dirait du cuir d'éléphant, on dirait.
Presque. Ouais, on sait pas trop ce que c'est, de même que la texture des extraterrestres, il y a quelque chose de très étrange, il s'y attarde beaucoup, on a l'impression de voir des mains en gros plan, un peu en macroscopie, il y a une recherche comme ça sur la texture pour essayer de faire passer une étrangeté par ce brouillard aussi qui entoure les extraterrestres. Et en fait, je le trouve très très habile dans tout ça, dans cette manière en fait d'envelopper son film. T'avais parlé de la musique, Jean-Baptiste, par exemple, je suis d'accord avec ça aussi, que ce soit la musique composée qui elle est peut-être un peu plus classique, mais aussi il met des musiques très contemporaines de Max Richter dans le film pour essayer de nous transmettre une émotion. Et en fait je trouve que c'est un réalisateur qui en maîtrise un peu dans tous les aspects de la cinématographie, quoi. Et les
bruits aussi, le travail sur les bruits.
Alors,
qui est quand même...
là on en parlera.
Qui participe à ce côté.
Je pense dans la section spoiler, parce qu'il y a des scènes sur le bruit que je trouve extraordinaire, ouais. Justement.
Alors, ben, en fait, mais oui, ben, techniquement, je peux en parler maintenant, mais moi j'adore justement quand on prend son temps. Effectivement, la mise en place des personnages et de l'inconnu, spécialement dans un film où t'as un contact avec des aliens, j'adore ça. Mais je trouve que justement, ce qui ne... Et je parle pas d'une seule scène ou des plans dans une seule scène, mais ce qui manque à mon avis, c'est qu'en fait, le temps qu'on prend au début pour ça n'est plus pris au milieu et à la fin du film, en fait. pour développer le reste de l'intrigue. Et du coup, je trouvais que ça voulait assez vite arriver au point où ça voulait arriver, tout simplement, au lieu de continuer à prendre son temps comme il l'avait très bien fait au début.
Oh ouais, mais après, parce que j'ai des réserves à émettre et des questions à vous poser sur des éléments de l'intrigue que j'ai ouais. pas forcément saisi ou qui me paraissent incohérents, on en parlera plus tard. Et, ouais. mais je pense que enfin, je sais pas ce que t'en penses, je pense qu'il faut arrêter pour passer
ouais,
à la
je pense
section
qu'on va
spoiler,
donner nos miams, effectivement. Et moi, d'ailleurs, je réserve peut-être. Ce que je pensais, hein, vraiment 0,5 miam sous réserve qu'on parle vraiment de l'intrigue plus amplement pour savoir s'il y a peut-être des choses aussi que j'ai pas forcément capté qui pourraient un peu mieux expliquer. Parce que moi, je trouve que justement, il y a des endroits où c'est des faiblesses, il me semble. Mais peut-être que vous allez me dire, ah ben oui, non, parce que.
J'ai une grosse faiblesse. Il y a une grosse faiblesse pour moi.
Attends, qu'est-ce que tu vas spoiler ou pas?
Non, pas du tout. Ouais. C'est une erreur de casting. Pour moi, c'est Jeremy Renner en scientifique. J'avais l'impression qu'il allait sortir son arc en 2 minutes. Enfin, il est pas crédible du tout, quoi. Le mec, ça se voit qu'il passe ses journées à la salle de sport, quoi.
Ah bon? Franchement, il est pas si qu'est-ce que ça. Enfin, Amy Adams, je suis d'accord qu'elle est vraiment géniale. Moi, ouais. J'aime bien. C'est vrai que Jeremy Renner, par contre, ça pouvait être n'importe qui d'autre. Tu vois, je le sens pas être exploité à mort, tu vois.
Enfin, je sais pas.
Mais on en parlait il y a pas si longtemps que ça avec toi, Arnaud. C'est vrai que, enfin, si, il y a longtemps. Mais Jeremy Renner, c'est un peu le gars parfait pour être le pote de Ben Affleck à Boston. Tu vois, un gars un peu dans les bas-fonds. Mais dès qu'il doit jouer quelqu'un d'autre, t'es là, tu fais genre, je sais pas trop.
C'est un acteur qui est pas tellement versatile, en fait, c'est vrai.
Ouais.
Mais il a quelque chose, il a quelque chose dans certains rôles qu'on a pu le voir, notamment dans Demeanor ou The Town. C'est vrai que juste ce charisme naturel qu'il a projette quelque chose, je trouve. Enfin.
Oui, mais tu trouvais pas que dans le film, Arnaud, il détonnait un peu, il faisait pas vraiment à sa place, quoi.
Il est un peu à contre-emploi, mais je trouve que ça correspond un peu au personnage aussi. Je trouve que c'est un beau personnage, en fait. Peut-être que joué par quelqu'un d'autre, c'est vrai que ça aurait pu être ouais, mieux, mais je...
Après, qu'on soit d'accord, tous les personnages sont plutôt effacés par rapport à Amy Adams. Pour reprendre ce que j'avais dit pour Sully, c'est un peu 90% du film, c'est des gros plans sur Amy Adams et c'est tout, quoi.
Ouais.
Donc, les autres acteurs, voilà, ils sont juste... Enfin, ils ont besoin que d'être corrects et c'est tout. Et en termes d'effets spéciaux, ensuite, voilà, pour pas trop rentrer, j'ai trouvé que le concept et le design... des choses extraterrestres étaient plutôt bien amenées. Bon, combien de miam vous donnez à ce film?
Sur 5 hein?
Ouais.
Ah, je laisse Arnaud commencer en premier parce que moi j'ai peur d'être excessif.
J'hésite, mais un bon 3,5 moi j'y mets.
Putain, 3,5. Moi je mets 4,5. 4,5, vraiment.
4,5. Okay. Moi je mets 3. Comme je l'ai dit, hein, je l'ai pas du tout détesté, j'ai juste été déçu. Mais 3 miam, c'est quand même honorable. On peut passer, on va penser à autre chose que ce film quelques minutes pour penser à d'autres films que vous avez pu voir ces derniers temps. Est-ce que vous avez des idées ou des choses?
Après, comme je l'ai dit, moi, cette semaine, les films que j'ai vus m'ont vraiment pas plu au cinéma.
Non, mais ça compte, hein, aussi.
Et... Ouais, mais j'aime pas. Enfin, notamment, j'ai vu le dernier Disney, la Vaiana, que j'ai trouvé pas bon.
Ah merde, il est pas...
Quelle horreur.
Ah, mais tu l'as pas
dit. Oh mon dieu. On a déjà vu ça un milliard de fois.
Ouais, on est d'accord. Hein.
Quelle nullité ce film.
Putain, la vache.
J'ai trouvé ça mal écrit. J'ai vu le marketing. Notamment, il y a un sidekick animal de l'héroïne qui est un porc qu'on voit à peine et on sent que c'était pour créer des peluches, tu sais, après, pour vendre aux enfants. Ça m'a assez gêné. Mais du coup, en fait, j'aimerais parler d'un film que j'aime beaucoup et qui est un peu d'actualité étant donné que le prochain film de ce réalisateur sort mercredi. Et c'est Margaret de Kenneth Lonergan, qui est un film que j'aime énormément. Qui était
film déjà.
Nous deux, on a dû en parler, mais pas dans ce podcast.
Ah oui, exact. On avait parlé. Je sais pas pourquoi, à cause d'Anna Paquin, non?
Eh ouais, Anna Paquin joue dans le film. Et en fait, c'est l'histoire d'une lycéenne qui un jour dans la rue, en fait, remarque qu'un chauffeur de bus porte un joli chapeau de cow-boy. Et elle lui fait des signes pour lui demander où elle l'a acheté. Et pendant qu'elle lui fait signe, elle le distrait et le chauffeur de bus écrase une femme. Et cette femme meurt dans les bras de cette jeune lycéenne. Et à partir de là, cette jeune lycéenne va passer le reste du film à faire en sorte que le chauffeur du bus soit condamné et soit viré. Et elle va plus jamais évoquer le fait qu'elle a une part de culpabilité dans cet accident. Et il y a énormément de digressions dans ce film. C'est un film qui doit faire 3 heures. Il y a peut-être 2 heures de digression et l'intrigue principale doit prendre à peine 1 heure. Et au fur et à mesure que l'intrigue avance, tu te rends compte en fait que il y a de plus en plus de parallèles entre ce qui se passe dans cette histoire et la géopolitique internationale. Et c'est-à-dire que le film évoque énormément le Moyen-Orient, l'Amérique de l'après 11 septembre. Et tu te rends compte que le film, en faisant un parallèle, en fait, dit que la réponse des États-Unis suite au 11 septembre a été la réponse émotionnelle d'une gamine de 15 ans, quoi. Et il y a un parallèle, tu vois, qui se crée entre tout ça. Et c'est un film que je trouve très fin, très bien écrit, très original. Et que j'adore. Et donc mercredi, il y a le nouveau film de Kenneth Lonergan qui sort, qui s'appelle Manchester by the Sea, avec Casey Affleck. Et je sais pas de quoi ça parle, mais il me tarde de voir ça. Voilà.
Moi, j'ai
Et c'est un film 5 miams. Voilà.
5 miams.
5 miams.
Tu mets à Margaret.
Ouais.
5 miams. Moi, j'ai vu deux choses dernièrement. J'ai vu Deepwater que j'avais raté, le dernier film de Peter Berg, tu sais, sur la plateforme pétrolière, l'accident
oui.
qui a eu lieu sur une plateforme pétrolière avec Kurt Russell, Mark Wahlberg, etc. La bande, en fait, la bande annonce ne fait pas justice à ce film parce que si je l'avais pas vu ce film, c'est parce que ça avait l'air assez gnangnang, un petit peu trop avec de bons sentiments, etc. Je dis pas qu'il n'y en a pas. mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'à part 2 minutes, forcément, où on va te présenter un petit peu la famille du personnage de Mark Wahlberg, le reste du film est plutôt bien fait. Et en fait, ça m'a surpris parce que il était... en fait, c'était très bien réalisé. Peter Berg, en fait, c'est un acteur à la base. Et autant parfois, il est capable de faire vraiment de la bouse comme dans Battleship, autant d'autres fois il peut te surprendre. Il avait fait, je me souviens, un film qui s'appelait Kingdom, tu sais, c'était dans la mouvance des films de guerre en Irak, etc. Et qui était plutôt pas mal. Et là je pense que c'est clairement un de ses meilleurs films, franchement, avec des acteurs qui sont des badass, hein, qui ont tous eu déjà des rôles dans des films où ils faisaient les mecs qui déconnent pas, qui savent faire leur travail. Et là, donc, c'était pas très très difficile, je pense, pour eux, mais c'était cool. Et donc voilà, j'ai vu ça. Et pour rester dans la lignée des films de bonhomme, hier je me suis perdu sur Netflix parce que j'étais affalé sur mon canapé et j'ai re-regardé un film qui s'appelle Days of Thunder, Jour de tonnerre, de Tony Scott, qui date de 1990 avec Tom Cruise et Nicole Kidman, qui est un film de course, de NASCAR. Hein. Alors, ça sent clairement les années 90, hein, le début des années 90, en tout cas. Mais c'est pas si horrible que ça. Ça n'a pas tant vieilli que ça. Mais ensuite, ça se regarde pas mal. Et j'aime bien voir les têtes de jeunes premiers de Tom Cruise et Nicole Kidman. Du coup, je vais donner 3,5 miams pour Deepwater et on va dire 3 miams pour le Jour de tonnerre, parce que quelque part c'est un film important, je pense, du fait que ça n'a pas vieilli alors que Nicole Kidman avait des grosses bouclettes. Voilà.
Écoutez, moi j'en ai vu deux récemment qui m'ont vraiment enthousiasmé. Alors un, c'est un film d'horreur qui est sorti il y a quelques temps qui s'appelle Don't Breathe, avec trois jeunes qui vont essayer de braquer un aveugle. Je l'aimais parce qu'il est à la fois radical et en même temps un peu grand guignol sur la fin. Je peux pas spoiler, mais ça vire au n'importe quoi. Florian, avec qui je l'ai vu, m'a dit mais c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Et moi j'adorais parce que ça partait dans une radicalité hallucinante avec un côté vraiment muqueuse et humeur, on peut dire ça comme ça, avec le festival du sperme, enfin vraiment des trucs hallucinants, vraiment de dégueulasserie. Moi j'ai aimé ce côté radical comme ça, et en plus il est vraiment très bien pensé, c'est-à-dire comment est-ce qu'un aveugle, a priori c'est quelqu'un qui est a priori plutôt inoffensif, comment ce type-là, malgré son handicap, arrive à se défendre badass, quoi. Vraiment, en plus, j'adore les films de vengeance un petit peu comme ça, donc ça, j'ai vraiment aimé. Donc, je mettrai 3,5. J'ai trouvé vraiment super. Et après, je voudrais réhabiliter un film que j'ai revu récemment et qui avait été déchiré par les critiques à l'époque. Et je sais pas si, à mon avis, vous le détestez. C'est le Dune de Lynch. Je l'ai revu.
Eh ben, détrompe-toi, on le déteste pas du tout, ce film.
Parce qu'il a, été vraiment, par les critiques à l'époque, il avait été vraiment déchiré.
T'es pas né, hein.
Oui. Mais quand tu lis les critiques, c'est vraiment terrible, terrible. Et je l'ai revu et je l'ai trouvé somptueux, quoi. Il a mal vieilli, c'est vrai, mais il est somptueux, quoi.
Non, mais c'est un film malade, c'est un film raté, mais c'est un film. Oui, il y a quelque chose, quoi.
Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose d'incroyable.
Ouais. C'est toujours bien de pouvoir voir un film. Quand il y a une patte, en fait. Quand il y a une patte, le film n'est jamais vraiment raté, au final. C'est un peu ça qu'on peut dire.
Oui. Enfin, je mettrais un 4, quand même. Parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose derrière ce film raté, on sent la potentialité de quelque chose d'énorme qui aurait pu arriver et qui n'est pas là. Et moi qui adore les regrets, les remords, je trouve que c'est un film qui est chouette à cause de ça.
Et puis, j'aurais envie de te dire, un blockbuster de David Lynch, tu vois, tu le verras pas ailleurs.
Ouais.
Allez, passons au spoiler de Premier Contact. On va essayer de faire ça chronologiquement encore une fois. Il n'y a pas grand chose à dire sur la première partie, je pense, parce que au final, voilà. Alors, comme je disais, première scène, ce sont des soi-disant flashbacks que le personnage d'Amy Adams a, où elle se rappelle tout simplement son enfant qui meurt d'un cancer.
Ce qui est brillant.
Oui. Enfin, alors,
et manichéen, t'es d'accord au niveau de la manière de filmer ça.
J'ai trouvé qu'effectivement le montage était assez manichéen. Effectivement, tu voyais un petit peu ces jumps avec l'âge de la fille qui augmentait, etc. C'est vrai que
le travail
y avait un peu cet aspect
sur l'eau,
onirique.
Sur les rochers, sur le bruit des pierres, tout ça, c'est magnifique.
Et ensuite, voilà, pendant le premier tiers du film, ça va être assez classique, même si c'est bien mené, madame, vous êtes la spécialiste linguistique au monde, vous avez votre accréditation top secret parce que vous nous avez aidé à faire des trucs
à condamner des
Irakiens, etc. Venez nous aider à décoder ce que ces extraterrestres sont en train de nous dire, parce que oui, peu de gens le savent, mais on est en communication actuellement avec eux. De là, ouais, moi la première scène du coup justement d'arrivée, alors certes elle peut être longue et rythmée par des plans de plus en plus courts pour avoir le, mais j'ai pas trouvé ça époustouflant dans l'originalité de SF. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, dans le fait qu'on change de gravité, etc. C'est des choses qui maintenant sont assez vues et je comprends bien que dans la réalité, je veux dire, nous-mêmes, si on y allait. Voilà, on serait abasourdi, mais...
Je suis d'accord sur l'écriture scénaristique, on a déjà vu ça, entre guillemets, mais au niveau de la réalisation, quand ils rentrent, je t'assure, moi, j'avais peur de tomber avec eux.
Moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas ressenti ça, et pourtant, je voulais vraiment adorer ce film, hein, vraiment. Hein, mais j'ai pas... Ça m'a pas époustouflé dans même la façon de faire,
en fait. Moi, j'ai été aussi assez désorienté par cette scène-là, que j'ai trouvé très 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 bien foutue. Mais ensuite, là, je pense que surtout, au-delà de la manière dont c'est construit, ce qui est intéressant dans le film en général, je veux dire, c'est la manière dont il traite son sujet, le sujet de la communication, comme on a dit. Cette scène, elle est importante parce que, en fait, tout le film doit être construit autour de ce premier contact. Et il y a quelque chose de très intéressant qui se passe juste après cette scène, c'est que la première scène de rencontre avec les extraterrestres, il y a Amy Adams qui a une crise d'angoisse un petit peu devant ces extraterrestres, qui commence à respirer de plus en plus fort, qui arrive pas à voir ce qui se passe, et la scène est coupée de suite, c'est-à-dire que tout de suite il y a une frustration, c'est-à-dire on va devoir attendre avant d'y retourner pour pouvoir enfin comprendre ce qui se passe dans cette scène.
Que quoi qu'il arrive, le premier contact était trop court. Et c'est vrai que c'est ce qui se passe à chaque fois. Les contacts, de toute manière, sont trop courts dès qu'on va vers... Après, c'est effectivement, bon, on rentrera peut-être après dans la symbolique, mais c'est vrai que Tu vois, tu es obligé d'aller sur le terrain de l'autre avec qui tu communiques pour pouvoir bien communiquer avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Tu es censé
Et puis il y a cette chose en fait qui traverse un petit peu tout le film. Je pense que on peut peut-être parler des grands thèmes du film, un peu de la manière dont il développe ce concept de communication, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui est très très important et qu'ils évoquent à un moment, c'est la théorie selon laquelle la langue.
C'est génial, ça c'est génial.
Structure
la pensée. Et c'est vrai, j'aimerais juste rajouter quelques petits trucs sur ça. C'est vrai que il y a quelque chose que j'ai découvert assez récemment sur ça. J'ai appris notamment qu'il y a certaines tribus aborigènes en Australie qui n'ont pas de direction relative. C'est-à-dire gauche et droite n'existent pas dans leur langue. Par contre, ils connaissent le concept de nord, sud, est, ouest. Ce qui fait que quand ils se parlent, par exemple, ils n'ont pas de bras droit, ils ont un bras sud, selon comment ils se positionnent, tu vois. Ou un bras
mais
est.
Mais parce qu'ils savent toujours alors dans quelle direction se trouve le nord et le sud.
Et alors justement, c'est étant donné que leur langue est structurée comme ça, ils n'ont pas besoin de boussole. Ils savent en permanence en fait où se trouve parce qu'ils en ont besoin pour communiquer. Et surtout, ils développent énormément ce truc que le médium que tu utilises pour communiquer va impliquer des relations sociales différentes. Il y a un petit exemple qui est marrant qui est montré au début du film, c'est-à-dire que il donne le terme qui est utilisé en sanskrit pour dire « guerre ».
Oui, c'est très joli.
Il y a un personnage qui dit que la traduction littérale en anglais est dispute, et Amy Adams dit que non, la traduction littérale est un désir de posséder plus de vaches. Ouais. Et en fait, c'est marrant parce que ça anticipe plein de choses qui vont se passer ensuite dans le film, c'est-à-dire que la manière dont tu traduis un mot. La manière dont l'étymologie d'un mot même dans une langue va initier des rapports sociaux différents. Et on le voit même dans notre société, c'est-à-dire qu'on en parle beaucoup. C'est l'arabe classique qui a été utilisé pour écrire le Coran, par exemple. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a plein de termes, on ne sait pas exactement en fait quelle est la bonne traduction aujourd'hui. Et il y a un exemple que j'ai appris récemment que je trouve assez beau, c'est on parle énormément du fait que le Coran dit que au paradis on aura droit à 72 vierges, et il se trouve que le mot en arabe classique pour qu'on a traduit par vierge peut aussi dire grappe de raisin. Donc tu recevras 72 grappes de raisin, et ce qui peut être logique vu qu'à l'époque offrir des grappes de raisin c'était un symbole de bon accueil en fait quand tu dois accueillir quelqu'un chez toi ou quelque chose comme ça. Et ces problèmes de traduction sont en fait au cœur du
la déception du mec qui se fait sauter qui arrive au paradis. Tiens, voilà du raisin.
Ah, merci. Très bien.
Il y a pas de pépin, hein.
Ah, s'il y a pas de pépin, ça va.
Est-ce que je peux baiser mes grappes de raisin? Non, mais et pour revenir, il y a l'étymologie, mais il y a aussi l'abord que tu prends apprendre la langue. Et là il y a une scène assez géniale où ils se rendent compte de comment, puisqu'en fait il y a plusieurs équipes de par le monde qui tentent forcément de converser avec les 12 vaisseaux qui viennent d'arriver sur Terre, et l'équipe chinoise utilise un jeu, le Mahjong, pour essayer d'apprendre à parler à leur langue et aussi d'apprendre la langue chinoise aux extraterrestres. Et tu as le personnage de Amy Adams, linguiste, qui dit ouais, c'est pas un abord génial, parce que dès que tu vas dans un jeu, il faut qu'il y ait absolument un gagnant, un perdant. Donc tu vas tout de suite aller dans le spectre de la confrontation
et du conflit
pour apprendre à quelqu'un ta langue. Donc c'est pas Forest Whitaker a un truc génial aussi, c'est que voilà, si tu donnes un marteau à quelqu'un, voilà, tout ressemble à
un clou,
et donc forcément c'est pas l'idéal pour apprendre une nouvelle langue.
C'est super aussi, parce que c'est de la même manière, si t'interroges par exemple des champions de jeux genre les échecs ou le go. Un champion de Go, par exemple, te précisera que la différence fondamentale qu'il existe entre les deux jeux, c'est qu'aux échecs, le but, en fait, c'est de détruire l'ennemi, c'est un jeu guerrier. Et alors qu'au Go, en fait, le but, c'est de se partager un territoire sur le plateau. Et tout de suite, ça implique un rapport différent, en fait, avec ton opposant, avec ton adversaire. C'est-à-dire que dans le Go, tu vas négocier avec lui pour essayer de voir comment tu te partages cet espace, alors qu'aux échecs, le seul but, c'est l'élimination totale de l'adversaire. Et il y a quelque chose de beau qui est impliqué juste par les règles que tu utilises pour cette communication. Et on le voit plus tard dans le film aussi, c'est-à-dire que l'axe, on va dire, majeur, le climax un peu du film, c'est que quand ils arrivent finalement à demander aux extraterrestres pourquoi ils sont venus sur Terre, ils expliquent que c'est parce qu'ils veulent donner une arme. Et il se trouve que tout le monde le prend comme arme, et Amy Adams dit non mais attendez, on sait pas exactement s'ils font la différence entre arme et outil.
Alors justement, alors avant d'arriver jusque là, il y a des choses qui sont très intelligentes, comme effectivement parler de ça, parler du fait que en fonction de la langue du côté humain, c'est-à-dire de ta provenance, tu vas parler différemment à l'alien. Je trouve ça vraiment dommage de pas avoir les autres équipes. Après, tu peux prendre très bien le parti de se dire non, c'est pas grave, nous on voit que cette équipe parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est Amy Adams. Ok, il y a pas de souci là-dessus. Mais je trouve un peu bizarre. J'aime pas trop quand le héros d'un film fait vraiment tout. C'est-à-dire qu'à la limite qu'elle vienne et qu'il y ait ce rapport avec l'écriture et que ce soit elle qui le trouve, ok, très bien, c'est l'héroïne, c'est pour ça qu'on la suit, c'est le chèque qu'on doit payer, comme tu dis, mais qu'après, on voit pas non plus les apports des autres équipes
du physicien,
qui pourtant
tout ça, bien sûr.
Concourent à tout ça, j'aime pas trop ça, et parce qu'ils sont censés normalement tous travailler ensemble. Et après, je comprends aussi que, de manière politique, tu sais, il y a ce problème qu'ils aient avec les Chinois et les Russes, parce que, ok, c'est un problème
politique. Très d'actualité.
Mais que, sous prétexte qu'on leur donne, effectivement, dès qu'ils arrivent à communiquer assez rapidement, et d'ailleurs, ils arrivent à communiquer, je trouve, assez, un peu trop rapidement, c'est-à-dire que, à partir du moment où ils se donnent deux, trois mots écrits, on passe directement à ok, je comprends directement ouais. Tous les cercles qui sont donnés avec les 14 mots que ça pourrait donner. Et quand il pose la question qu'est-ce que vous venez de faire ici, il lui donne un cercle. Elle dit ça veut dire donner arme, alors que 3 secondes après, quand elle est en bas, quand il y a le traducteur automatique, elle voit qu'il y a 14 mots qui sont quand même beaucoup plus soft que armes, outils, partagés, etc. Et surtout, quand ils prennent le mot donner arme, il y a soi-disant cette décision politique assez arbitraire de tout le monde de dire « Ouh là là, sortez tout de suite !» je sais pas, excusez-nous, on va autant utiliser tout le monde. Et je trouvais que ça, c'est un peu une facilité pour rentrer dans cette déconnexion de tous les gens ensemble. Et puis, excuse-moi, je veux bien que la Chine et la Russie se déconnectent, mais que le Danemark se déconnecte parce que le Danemark a peur que les États-Unis l'attaquent.
Non,
au contraire, ils se déconnectent pas.
Ce serait pas plus étonnant que ça. Non, on sait pas du tout comment réagiraient nos gouvernements si ça arrive.
Non, mais ouais, mais attends, mais il y a des. Je veux bien que quelques. Enfin, que, encore une fois, il y ait des gens qui se disent on va pas jouer le jeu avec vous. D'autres, t'as envie de te dire, mais je suis désolé, on est littéralement face à quelque chose d'inconnu, soyons sérieux, quoi. Ça me semble un peu facile, la façon dont...
Non, mais ça sert le scénario qui est quand même... qui raconte notre incapacité à communiquer, quoi. D'ailleurs, si tu regardes bien le film par petits bouts, c'est une succession de chaînes, de scènes où tu vois des gens qui ont du mal à communiquer, quoi. Quand tu vois à un moment, t'as le soldat qui appelle sa femme, tu vois, et qui lui dit je peux pas te dire ce qu'on fait ici, non, mais je peux pas te dire, et elle insiste, tu vois. Après, quand ils sont dans l'hélicoptère, qu'elle essaye de lui parler et qu'ils entendent pas à cause du bruit, et qu'il lui dit de mettre le casque, et qu'avec le casque, elle arrivera à comprendre ce qu'il lui dit, tu vois. C'est une succession de scènes.
Il y a des petits Kinder Bueno de langage comme ça qui sont
donnés. Non, et du coup, c'est vrai que c'est un film qui est essentiellement articulé autour de ça, sur notre incapacité à communiquer exactement.
Je suis totalement d'accord avec vous deux, en fait. C'est-à-dire que je suis d'accord que le film martèle ce thème à plusieurs reprises aussi. La première rencontre entre Jeremy Renner et Amy Adams, ils se comprennent pas parce qu'elle a pas mis son casque pour pouvoir communiquer dans l'hélicoptère. Enfin, il y a beaucoup de scènes comme ça. Et de la même manière, je suis d'accord avec Areski, c'est-à-dire que autant je comprends thématiquement pourquoi ils ont fait ça, autant je trouve que c'est un peu facile, en fait, juste sur le terme de l'écriture,
Et moi, ce que j'adore vraiment, encore une fois, je sais que je martèle ça, mais le premier tiers du film, moi j'aime bien quand on met en place des trucs. Moi, j'aime bien voir des jeeps de militaires arriver dans le camp de base à côté, parce que je sens une certaine réalité. Je sais que quelque part ça se passerait comme ça. Je sais qu'il y aurait des milliers de gens qui seraient à côté de ces vaisseaux, qu'il faudrait les repousser, qu'il faudrait appeler la garde nationale. Et moi, ça me met dans une réalité. Et quand on parle de SF, je suis désolé, voilà, il y a le côté science, quoi. y a la fiction, mais il y a le côté science. Et donc, je trouve que mettre autant de temps à mettre en place les choses pour, après, dès qu'on rentre dans le vif du sujet, faire des petites facilités comme ça, c'est, je trouve ça un poil dommage.
Et surtout que, comme tu dis, en fait, je trouve qu'ils sont pas assez loin. Comme tu dis, une fois qu'ils commencent à rentrer en contact avec eux, il y a une longue ellipse de plusieurs mois. Avec une voix off qui nous explique ce qui se passe, et on passe directement à la suite, alors qu'en fait le processus de découverte de cette langue, je trouve que ça aurait pu être intéressant. Moi, ça m'a rappelé un vieux jeu vidéo, je sais pas si tu avais joué à Aski, qui s'appelait Captain Blood, et où en fait t'avais un vaisseau spatial et tu allais de planète en planète, et il y avait des extraterrestres qui parlaient une langue, et en fait t'étais obligé d'apprendre cette langue en communiquant petit à petit avec les gens pour pouvoir jouer au jeu. Et il y avait quelque chose de super intéressant, tu vois, dans cette manière d'articuler. C'était une langue un peu basique, mais après tu créais des mots, tu vois, avec les trucs comme ça. Et le truc de cette recherche, je trouve qu'il y a quelque chose qui aurait pu être beaucoup plus utilisé.
C'est vrai.
Et notamment ce que tu dis en fait sur l'absence de communication en fait avec les autres équipes, c'est un petit peu dommage, parce qu'il y a quelque chose qui est abordé à un moment donné. C'est à un moment donné, et ça c'est très juste sur la communication, il parle de la théorie des jeux. Et la théorie des jeux, c'est une théorie économique en fait qui essaie de qualifier en fait les négociations qu'on peut avoir en fait avec différentes parties. Et donc il y a notamment en fait deux types de jeux qui existent: les jeux à somme nulle, comme les échecs justement par exemple, où en fait ce que gagne un des négociants, l'autre va le perdre. Ça, c'est ce qu'on appelle un jeu à somme nulle. Et il parle dans le film des rapports gagnant-gagnant, qui est un jeu à somme non nulle. Et là, c'est super intéressant, parce que le jeu à somme non nulle le plus célèbre, c'est le dilemme du prisonnier, que vous devez connaître sans doute. C'est, on attrape deux prisonniers, et en fait, grosso modo, ce qu'on leur dit, c'est que si en fait un des prisonniers dénonce l'autre, il aura une peine un peu plus légère, et l'autre aura une peine plus lourde. S'ils dénoncent tous les deux auront des peines assez lourdes. Et si chacun, en fait, ferme sa gueule, les deux pourront être libérés. Et en fait, ou auront à peine, tu vois, quelques mois de prison ou quelque chose comme ça. Et le truc, c'est que les deux prisonniers ne peuvent pas communiquer. Et ne savent pas, en fait, ce que va répondre l'autre. Ce qui fait que si juste tu fais un schéma tout à fait classique, t'as tout intérêt à trahir l'autre, parce que si tu trahis l'autre, tu gagnes plus, quelle que soit la réponse de l'autre. Mais le rapport le plus gagnant que les deux pourraient avoir, c'est si aucun ne se dénonce.
C'est se taire.
Et c'est un truc c'est que tu vois plein de trucs. C'est-à-dire que même dans notre géopolitique, par exemple, le rapport le plus gagnant qu'on pourrait avoir entre toutes les nations, c'est de ne pas avoir d'armée. Si on n'a pas d'armée, on peut investir cet argent dans autre chose. Mais si tu n'as pas d'armée, un autre pays peut se militariser et donc en fait on perd de l'argent à cause de ce problème de communication et à cause de ce problème-là. Donc en fait c'est un problème très très profond, ce problème de théorie des jeux, et on l'évoque à peine, et je pense qu'il faut un peu connaître ce que signifie la théorie des jeux pour comprendre ce qui se trame, alors que ce truc aurait pu être illustré en nous faisant passer, comme tu dis, en fait, dans d'autres équipes qui essaient, et de voir la manière dont ils n'arrivent pas à communiquer. Et je trouve que c'est une opportunité ratée ici, tu vois, de pouvoir...
Parce que je trouvais que justement, en augmentant peut-être, en nous montrant d'autres équipes, on aurait pu nous augmenter une tension de merde.
Faut qu'on réussisse
ils,
à...
ils vont nous dénoncer, pour reprendre le truc du dilemme. Et alors que là, tu le sens arriver juste parce qu'il faut qu'on passe à la phase 2 du script, tu vois. Et notamment
la manière dont c'est désamorcé, c'est très très facile, vu qu'en fait elle parle en chinois à un général et on comprend même pas ce qu'elle lui dit, quoi. Et c'est.
Alors, du coup, on va arriver à autre chose. Bon, ok, premier contact d'ailleurs, en fait, oui, on en parlait
tout
à l'heure, mais je t'aurais coupé après parce que tu disais que c'était très cthulien. Effectivement, je pense que
c'est très Lovecraftien,
parce que on voit ces espèces de pieuvres
dans la pénombre, en fait, dans la brume comme ça.
Une brume, des choses
la chose de la famille Adam, un peu, tu sais, comme
exactement, ça. Exactement, c'est ce qu'on a tous pensé. Et d'ailleurs, on m'avait dit pendant la séance, ça ressemble à des mains, mais avec des têtes de gland. En fait, c'est plus ou moins.
On t'avait spoilé avant la.
Non, pas du tout. Après avoir. Une bonne vision de tout ça. C'est pas très très original, mais c'est plutôt bien fait.
Tu vois
ce que je veux dire, on rentre pas, enfin, c'est à dire que personnellement j'ai vu des épisodes de Star Trek où l'extraterrestre était pensé autrement, tu vois. Tu peux avoir des êtres de lumière ou des choses comme ça, vraiment autre chose que
Là, pour le coup, c'est vraiment un contact avec quelque chose d'étranger, tu vois ce que je veux dire? Il n'est pas humanoïde, il est vraiment étranger. Et ça, c'est bien, c'est rare dans les films.
Après,
il n'est pas attirant.
C'est pas rare, mais ce qui est intéressant, c'est que ça fait peur. Et ce qui est intéressant, c'est que l'étranger, là, fait peur. Et c'est très simple, la décision qui est prise d'arrêter de leur parler, elle est beaucoup plus facile à prendre une fois que dans les médias, la photo d'un extraterrestre qui fait très peur a été diffusée, plutôt que si c'était des gens très très jolis en mode tu sais, on a pris un peu votre apparence d'humain et on est tous des Gisèle Bündchen, là on dirait non, c'est pas grave, on peut encore essayer de leur parler, tu vois. Et c'est vrai que c'est voilà, forcément tu as des heptapodes, des choses qui ressemblent à des pieuvres qui vont peut-être te manger, tu fais genre ah non, ça m'intéresse plus trop. Ouais. Et je trouvais que c'était assez intelligent ça aussi.
Il y a une série qui était sortie il y a quelques temps qui était excellente, c'est une adaptation d'un roman qui s'appelait Les Enfants d'Icare, que je vous conseille vraiment, qui était sorti sur Sci-Fi, c'était en 4 épisodes, c'était génial, ça reprenait ce thème-là de...
Ascension, tu vois? Non. Ça.
Non, je crois pas. Ça reprenait ce thème-là des vaisseaux d'un seul coup qui atterrissent sur Terre et qui donnent beaucoup de leur technologie aux hommes. Mais la seule contrepartie, c'est que les hommes ne doivent pas demander un instant à quoi ressemblent les extraterrestres.
Ah, d'accord.
C'est génial. Il faut que vous regardiez parce que, bien évidemment, à un moment, les extraterrestres vont sortir de leur vaisseau et ça montre le pouvoir de nos représentations et de comment est-ce que. Quelque chose que tu as imaginé, quand ça te déçoit, d'un seul coup, tu es capable du pire. C'est fantastique. D'accord. Faudrait que je vous retrouve le nom de la série.
Ouais, faudrait que je vois ça. Ouais. Alors, du coup, pour avancer un petit peu, voilà, on arrive à ce point de rupture où, en gros, il y a une faction de renégats des militaires qui, là aussi, je trouve que c'était un peu léger. Se prenaient ce qu'ils écoutent 2-3 podcasts de mecs républicains. Ils se disent, tiens, on va mettre une bombe de C4. Ils les mettent assez facilement. Comme par hasard, c'est les deux gars qui s'occupent de la sécurité des scientifiques.
En fait, c'est pas léger. C'est surtout qu'on passe pas de temps à développer ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est dommage, vraiment.
Quand je dis léger, c'est parce que on passe pas de temps.
C'est-à-dire, je pourrais le comprendre si c'était beaucoup plus.
Totalement, c'est-à-dire que si tu me dresses un peu plus le personnage que parce qu'il a parlé à sa femme qui avait peur pour lui.
Il a peur pour sa famille, c'est suggéré quand même, tu comprends.
Non, mais c'est suggéré, il n'y a pas de souci.
En fait, comme tu dis, c'est
suggéré. Et bien expliqué et amené et même me faire peut-être un petit Ocean's Eleven de leur côté de comment on va amener du C4.
Il y a un gouffre entre parler à sa femme, avoir un peu peur ou quoi, et puis vouloir faire péter le vaisseau.
Et puis vouloir commencer une guerre intergalactique.
Oui, c'est ça, je suis d'accord. D'ailleurs, je remarque que la fin du film, ça ressemble un peu à Indépendance Day 2, dans le sens où c'est le même pitch, c'est-à-dire des extraterrestres qui viennent sur Terre, des gentils extraterrestres qui viennent sur Terre.
Ah, tu veux dire le début de l'Independence Day 2? C'est-à-dire que en fait le
enfin qui ont besoin de nous, tu vois, qui ont besoin de nous pour les aider, quoi.
Les 4 secondes du début d'Independence Day 2.
Expliquons, parce que on apprend que en fait finalement, parce qu'ils vont pas comprendre s'ils ont pas vu le film, nos chers auditeurs, c'est que en fait on apprend que finalement ce cadeau qu'ils viennent nous offrir, c'est leur langue, parce qu'il se trouve que leur langue n'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'elle se lit tout à la fois, et qu'en ayant cette connaissance de cette langue, tu peux aussi te projeter dans tout le temps à la fois et connaître le futur en même temps que le présent, etc. Et s'ils viennent le donner aux êtres humains, c'est parce qu'ils disent « On vient vous le donner parce qu'on aura besoin de vous dans 3000 ans. »
Voilà.
Ce
qui paraît quand même étonnant. C'est parce qu'avec la technologie qu'ils ont, je suis désolé, mais tu dis « Mais comment est-ce que des êtres avec une technologie incroyable comme ça pourraient avoir besoin de nous, un, dans 3000 ans, et deux, s'ils avaient besoin de nous dans 3000 ans, ils pourraient très bien venir se servir, tu vois, avec la technologie qu'ils ont, s'ils ont besoin de quelque chose.
Peut-être pas, parce qu'en fait, quand tu rentres dans cette conception du temps que j'ai trouvé très intéressante et que j'adore encore une fois, le Docteur Manhattan.
Qui est un cliché un peu de la science-fiction qui a été repris, comme tu dis, dans Watchmen. Je crois que la première fois, ça devait être Abattoir 5 de Kurt Vonnegut qui montrait super bien ces extraterrestres qui pensaient comme ça le temps en permanence.
Dérivé encore, je me souviens jamais du nom de cette nouvelle, mais le premier, c'est dans les classiques de la science-fiction, c'est Norman Spinrad qui parle d'un mec qui dès sa naissance pouvait parler, parce qu'en fait il avait il pouvait se balader à tout moment dans son temps.
D'accord. Voilà.
Et c'est un peu ça là qu'on est en train de nous dire. Et plus tu connais leur langue, plus tu as le pouvoir de faire ça, j'imagine. C'est ce que, en tout cas, j'ai compris.
Oui, parce qu'elle a, elle a en fait ce qu'on disait, qu'on croit être des flashbacks de sa fille morte. On apprend plus tard que c'est des flash forward, et elle commence à avoir ces flash forward quand elle se met à connaître la langue des extraterrestres. Ouais. Et c'est là où il y a bons moments sur le son, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on la voit dans une scène, on a le son d'une autre scène qui vient dans d'un autre espace-temps, et ce son, il est pas du tout mixé comme s'il venait d'ailleurs. On dirait qu'il est présent dans la scène. Et il y a un travail super beau comme ça sur le son qui est fait.
alors, je vais rester d'abord sur les. Juste pour te répondre à ce truc de technologie. Je pense pas, parce que je pense qu'on rentre là dans un continuum espace-temps. On va rentrer chez les geeks un peu pour parler de ça. On rentre dans un continuum espace-temps où tout a une raison, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, les extraterrestres sont venus nous voir maintenant pour avoir besoin de nous dans 3000 ans, parce que ils étaient déjà venus nous voir maintenant, tu vois ce que je veux dire, et on est déjà allé les aider il y a 3000 ans. Tu vois ce que je veux dire,
ça fait partie
du grand cycle. C'est quand personne n'a écrit la chanson de Johnny B. Goode, parce que Marty McFly l'a joué en 55. Et Chuck Berry l'a copié, etc., etc.
Mais aussi, on peut très bien imaginer pourquoi ils peuvent avoir besoin des humains. C'est peut-être justement leur capacité à penser le temps de manière linéaire qui est importante dans 3000 ans, tu vois.
Bien sûr.
Après,
le souci que j'ai par rapport à ça, c'est les extraterrestres donc, ont leur conception du temps comme ça. Donc, cette espèce de bombe, ils le savent dès le début que la bombe est là.
On voit clairement. Ça, si tu veux. Alors là, on entre dans les trucs qui m'ont posé problème et j'aimerais en discuter avec vous. C'est-à-dire que, autant la bombe, c'est-à-dire, je peux comprendre, c'est-à-dire que ils avaient besoin de ce temps avec Amy Adams parce que c'est le moment où elle va finir de comprendre cette langue. Tu vois ce que je veux dire?
Et donc,
en fait, quand ils arrivent, ils savent déjà qu'ils vont devoir sacrifier un des deux extraterrestres qui va mourir dans l'explosion pour qu'Amy Adams connaisse cette langue. Ça me pose pas de problème. Il y a un truc qui me pose problème, c'est-à-dire s'ils savaient que finalement c'était Amy Adams qui allait comprendre cette langue, pourquoi ils ont posé des vaisseaux spatiaux ailleurs dans le monde? Ils en ont pas besoin des autres, vu que c'est Amy Adams qui va comprendre la langue, tu vois?
Il y a ça comme problème, et il y a...
Et parce que si je vous pose la question, c'est je me demande si vous avez pas une solution à ça, peut-être qu'il y a une raison, je sais pas.
Tu pourrais dire que c'est le conseil... Ouais, non,
moi, j'ai une idée,
la vérité, c'est que
idée.
Non. Hein.
Non, j'ai juste une idée, c'est que le langage linéaire, non linéaire, pardon, je sais plus comment il s'apporte un nom très, très compliqué, mais ce langage-là permet à Amy Adams de savoir des choses sur sa propre vie. Tu vois ce que je veux dire? Mm-hmm. Elle sait rien du destin du monde ou de. Elle sait juste qu'elle va rencontrer le chinois lors d'une réception et que le chinois va lui donner son numéro. Elle sait qu'elle va avoir une enfant qui va décéder d'une maladie orpheline. Mais elle en sait pas plus. Et peut-être que chaque extraterrestre, si tu veux, ne sait que des choses qui concernent sa propre vie. Alors bon, tu me diras comment ils savent que du coup, dans 3000 ans, ils vont avoir besoin des êtres humains.
Bah oui, mais du coup, ces deux extraterrestres-là, en tout cas l'autre, il sait que c'est elle qui va... Ouais. Qui va comprendre le truc.
Mais en fait, on en arrive au même problème, c'est que, comme tu dis, Abbott et Costello, les deux extraterrestres qui communiquent avec Amy Adams, ils savent que c'est eux, en fait, qui vont réussir à transmettre le langage
Après, peut-être que c'est pareil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison parce que, en fait,
Amy Adams a besoin à communiquer.
Du contexte. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si Amy Adams a compris le langage, c'est parce qu'aussi, il y avait 11 autres. Vaisseau.
Non, il y a ça.
Et ça aurait pu être mieux expliqué quand même, non?
Non, c'est Arnaud, je pense que c'est parce que c'est pour nous forcer aussi à communiquer. S'ils ont posé les 12 vaisseaux, tu sens, c'est aussi pour forcer l'être humain à créer une sorte de grand gouvernement de paix mondial.
Oui, mais alors justement, à ce moment-là, il y a un truc qui est dommage et qui n'est pas développé, c'est-à-dire que si le but des extraterrestres, c'était de remettre en cause, en fait, notre système politique, notre manière de nous organiser en État-nation. On voit quand même que dans un flash-forward dans le futur, l'idée d'État-nation, elle n'a pas bougé. C'est-à-dire qu'il y a quand même un gouvernement global. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On dirait qu'il n'y a pas de réflexion sur, du coup, si on doit organiser notre système politique différemment, on devrait penser à un autre système politique. Et on dirait que là, ce n'est pas le cas. Tu vois?
Enfin, là, c'était peut-être un an ou deux ans après. Hein, donc, c'est un peu normal qu'ils se soient rien passé.
Alors, je suis d'accord que c'est dommage qu'ils se soient. C'est normal qu'ils ne se soient rien passé là. Mais il n'est pas évoqué à aucun moment. Que en fait, on va devoir repenser ça. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais. Enfin bon, ça, à la limite, on rentre dans autre chose parce que dès qu'on va dans le futur, on est vraiment que sur Amy Adams en fait.
Oui. Oui, mais c'est ce que je dis. C'est peut-être dommage qu'on soit que sur ça.
Oui, mais Mais fois, moi, ce qui me gêne le problème, c'est le pouvoir des extraterrestres qui n'est pas vraiment utilisé. Parce que aussi, s'ils savent que c'est grâce à l'écriture qu'ils vont discuter, pourquoi est-ce qu'ils sont pas arrivés dès le début et ils leur ont pas mis les écritures aussi dès le début?
Et alors, ça, je peux le comprendre. Ça, par contre, je peux le comprendre. C'est-à-dire que le processus d'apprentissage doit aussi passer par le fait que. Ils doivent prendre l'initiative de communiquer. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, t'as peut-être pas le même processus d'apprentissage si tu balances directement le.
Ouais. Mais enfin, en même temps, ce qui est pire aussi, c'est que quelque part, eux aussi, ils apprennent la langue. Mm-hmm. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'ils arrivent pas dès le début et ils mettent pas. Et ils parlent pas la langue des humains?
Mais oui, alors oui, mais là pareil, peut-être que ça fait partie du processus. Mais pareil, ouais, c'est ouais. Dommage que ce soit pas abordé ça. C'est-à-dire que t'es obligé de compléter toi-même quoi.
Parce que là encore, c'est rapide. Parce que là, comme je disais, c'était rapide pour apprendre très vite leur langage. C'était rapide pour que toutes les équipes du monde entier soient singularisées. Et c'était rapide sur la résolution du film. Parce qu'en fait, la résolution du film. Voilà, c'est j'ai ce pouvoir, je me rends compte que... Bon, enfin, dès qu'elle a ce pouvoir, on sait très bien qu'en fait, c'est Jeremy Renner, son futur mari, qu'elle va quand même avoir un enfant avec lui, alors qu'elle sait que son enfant va mourir, etc. Et voilà, son petit truc de j'ai une discussion avec le Chinois qui nous empêche d'avoir une relation... international, et en fait je comprends pas les parallèles, les timelines en fait, tu vois ce que je veux dire ou pas?
Ouais, oui.
Pourquoi elle doit faire vite, pourquoi elle ne l'a pas dès le moment
parce qu'elle apprend la langue en fait. Non, parce qu'elle l'apprend petit à petit et ça,
et ouais, mais non, mais
c'est peut-être l'urgence, le stress, l'adrénaline.
Elle est redescendue du vaisseau,
ouais.
Et le moment où tu vois, elle apprend pas plus de leur langue, donc techniquement elle a déjà ce pouvoir, tu vois, donc tu vois ce que je veux dire. C'est un peu le truc un peu forcé de dire oui, j'appelle.
Pour le suspense.
Ouais,
ouais, c'est ça.
Parce que. Et du coup, alors que tu aurais pu l'expliquer peut-être autrement si t'avais effectivement mis les formes et attendu un petit peu. Et moi, ce que je trouve vraiment, vraiment dommage aussi, c'est qu'on nous ait dit dès le début du film que son enfant est mort. Parce que, en fait, j'ai réalisé ça en regardant après. Je me suis dit, si on se rend compte que l'enfant est mort de cancer au moment. Où elle a ce pouvoir, là, je me dis, ah putain, elle va quand même avoir son enfant.
Mais c'est ça qui est superbe.
Non, mais je comprends, mais moi, ça m'a spoilé le truc dès le début, parce que je vois ça au début, je comprends son pouvoir, donc je me dis, ah ouais, ok, elle va quand même avoir son enfant.
Ah, mais
même
t'as compris son pouvoir dès le début?
Non, non.
T'as mais compris oui. Que c'était des flash-forward.
C'est pas qu'elle a pas son pouvoir dès le début, c'est que, ce que je veux dire, c'est que, ça y est, je connais la mort de ce personnage que je ne connais pas vraiment. Alors que si on m'avait... fait des espèces de faux flashbacks comme ça d'un enfant que j'avais pas forcément vu quand elle rentrait chez elle pour travailler, je me serais dit tiens son enfant est chez son père peut-être, j'en sais rien, et là je me rends compte que non, c'est vraiment, tu vois, là au moins j'ai une surprise, là j'ai zéro surprise.
Ah, en fait moi ça m'a pas beaucoup gêné dans le, enfin j'ai été très très ému quand même au moment où elle le réalisait elle-même, et en fait la scène qui m'a fait complètement qui m'a fait partir en chialade ininterrompue, c'est le moment où elle explique à sa fille qu'elle va mourir. Et je l'ai trouvée extrêmement émouvante et extrêmement juste, extrêmement...
Il a raison.
Bah, moi, franchement, juste le fait de ne pas le montrer au début, j'aurais pu rentrer dans cette émotion-là, mais en fait, c'est devenu assez mécanique, c'est-à-dire que dès qu'elle a eu son pouvoir, bah, du coup, j'ai tout compris du film, et je me suis dit... ok, donc elle sait qu'elle va avoir un enfant, elle va quand même l'avoir, ok, et c'est probablement Jeremy Renner son mari, et après en plus on te le présente comme si c'était une surprise que Jeremy Renner soit son mari, alors que bon, tu réfléchis un peu, tu le sais quoi, et du coup pour moi c'était un peu, enfin ça y est j'avais compris, et du coup même en me le remettant, j'ai pas eu l'émotion, alors que tu vois j'aurais été, genre, on m'aurait dit oh putain non, en fait elle a pas encore eu son enfant.
Et son enfant
et en
va
plus,
mort.
Elle meurt, etc. Ah, d'accord. Et là, je me serais dit, ah, ok, là, je suis en plein dans le personnage qui prend la décision consciente de quand même flirter avec Jeremy Renner et d'avoir cette relation, etc. Et là, je me suis dit, ah, ok. Et là, ça.
En parlant de ça, on retombe sur le thème de la communication, puisqu'on apprend que dans le futur, ils vont se séparer tous les deux parce qu'ils vont être incapables de communiquer, elle, de lui dire ton enfant va mourir à Jeremy Renner, et lui, d'entendre. l'incommunicable, l'indicible, oui. C'est-à-dire mon enfant va mourir. Ouais. Et donc on retombe sur cette incapacité qu'ont les êtres humains à communiquer les uns les autres. Quoi.
Oui, mais il y a aussi toute la chose dit très difficile de... bon, ça va être quelque chose de philosophiquement dit et redit, mais ce n'est pas la destination, mais c'est le voyage, tu vois. C'est-à-dire qu'elle va quand même revivre... Enfin, oui, revivre oui. Toute l'enfance, même si elle est arrêtée prématurément de sa fille. Oui. Parce que
sauf qu'elle va avoir peut-être l'idée d'en... Elle va peut-être avoir l'idée d'en faire un deuxième, cette fois-ci.
Un meilleur, pas un enfant moisi qui meurt d'un cancer en plein milieu.
T'es horrible.
Mais voilà, mais après, et voilà, c'est
et après, ça brasse aussi le thème dont on a déjà parlé un milliard de fois, c'est est-ce que l'être humain est libre ou pas? Et est-ce qu'on n'est pas, est-ce qu'on se croit pas libre parce qu'on ignore les causes qui nous déterminent? Et on retombe sur ce schéma, ce débat qu'on a eu plein de fois. Quoi.
Mais là, en fait, c'est ça qui est intéressant dans ce pouvoir que t'as, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que tu vis tous les moments de ta vie, et donc en fait, tu as eu ton libre arbitre avant d'avoir ce pouvoir. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, c'est juste, c'est-à-dire que là, c'est le principe du film, c'est-à-dire je l'accepte. C'est à partir du moment qu'elle apprend la langue qu'elle peut se projeter. Voilà. Si on m'avait expliqué qu'elle l'a toujours eu, ça m'aurait allé aussi. Si tu veux, c'est juste les lois de la physique du film. Et ça, tu les acceptes. Tu vois ce que je veux dire, Araski?
Oui, non, mais moi je te parle de justement après, à partir de T0 jusqu'à la mort de son enfant.
D'accord, je croyais que tu disais que c'était dommage qu'elle ne connaisse pas la langue avant, vu qu'elle allait se projeter dans le film. D'accord,
C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que tu vois, en fait, en termes de libre arbitre, oui, tu rentres dans le truc de tu as fait ce que tu as fait parce que tu l'as déjà fait, en fait.
Ouais, mais c'est Dr Manhattan, quoi. Qui...
Voilà, tout est fait, parce que tu peux pas avoir 1000 réactions au même moment, et peu importe, en fait. Mais voilà, ça c'était très intelligent. Moi j'ai bien aimé cette gestion du temps, cette découverte. Encore une fois, c'est pas quelque chose d'énormément original, mais
c'est pas grave.
Mais c'est bien amené. Mais voilà, moi c'est pour ça que j'ai été déçu. Je le redis, c'est parce que je m'attendais à vraiment quelque chose de poussé et traité au maximum de ses capacités par Denis Villeneuve. Donc voilà,
En fait, j'ai envie de dire, c'est un peu comme souvent avec Denis Villeneuve quand il travaille à Hollywood, c'est qu'on lui donne des scénarios qui sont pas toujours forcément super aboutis, et il les prend à bras le corps et il en fait un truc avec sa mise en scène, quoi. Ouais. Et un peu toujours la même chose. Il me tarde qu'il ait un scénario extrêmement, parce que lui il retouche pas en fait les scénarios. Il croit dur comme fer dans sa mise en scène, et il a pas tort parce qu'il est brillant. Et il se dit, je vais prendre ça et je vais en faire autre chose. On se souvient tous, par exemple, du personnage de Jake Gyllenhaal dans Prisoners, qui sur le papier en fait n'existe pas, quoi. C'est juste un flic, quoi. Il a rien de spécial, c'est rien. Et c'est justement par la direction d'acteur, par cette incarnation de Jake Gyllenhaal, qu'il en fait un vrai personnage à part entière. Et ça, c'est quelque chose que je vois pas souvent dans les films, quoi.
Parce que moi, je dirais de peut-être pas forcément faire un film aussi souvent, mais Denis Villeneuve, pour moi, il peut devenir Christopher Nolan s'il retouchait à ses scripts, par exemple, tu vois.
Il peut. Moi, je préfère Villeneuve à Nolan, en vrai.
Moi non, parce que au moins j'ai moins de choses, on va dire, à reprocher. Même si bon, il y en a quand même, hein. J'ai moins de choses à reprocher au script de Nolan.
Un meilleur scénariste, mais c'est un moins bon metteur en scène, Christopher Nolan.
C'est pour ça que s'il faisait ça, s'il retouchait à ses scripts, ce serait vraiment génial, tu vois.
Peut-être pas la capacité non plus, enfin,
C'est pas faux, mais autant, moi, tu vois, les petits défauts d'un script de Sicario ou de ce que tu veux, ou de Prisoner, voilà. Je m'en fous parce que c'est des petits défauts et que sa mise en scène est tellement brillante que tout va être sublimé. Dès que tu rentres dans de la SF et que s'il y a des trucs qui vont pas, bah le truc ils vont pas. En tout cas, ils me vont pas. Donc ça me retient un peu du.
Ouais, je comprends. Je comprends tout à fait. Voilà. Mais moi, j'ai franchement, le film il m'a tellement emporté que je décide de vraiment pardonner tous les petits défauts que j'ai pu rencontrer.
Ouais. C'est marrant. Moi ça m'arrive plein de fois en plus de pardonner plein de trucs à des genre moi tu vois les défauts de Dark Knight Rises par exemple je les vois pas tu vois parce que je me les occulte. Mais Mais il y a des fois, ça me gêne. Je sais, je pourrais pas expliquer pourquoi.
Ouais, non, mais parce que de toute façon, il y a un truc extrêmement subjectif comme d'habitude.
Ouais,
là, quand
c'est totalement un feeling, oui, absolument. Absolument. Quelque chose d'autre à dire en spoiler de Premier Contact. Après, voilà, on a quand même bien aimé.
Oui,
4,5, 3,5, ça va quand même lui faire une bonne moyenne à 3,5.
Le titre est pourri. Le titre est pourri.
Le titre français est pourri, pas génial.
Surtout que. Surtout que Denis Villeneuve n'aime que les titres qui font qu'un mot. Alors c'est une trahison, quoi.
Ouais. Parce que là, c'est. Oui, pardon. Parce qu'en plus, sur Facebook, j'avais mis The Arrival, mais c'est pas
c'est
The Arrival,
Arrival,
c'est Arrival. Parce que The Arrival, c'est un ancien film avec Charlie Sheen. Que j'avais bien aimé, d'ailleurs, aussi.
Ouais, j'ai juste une question pour la fin. C'est est-ce que vous avez lu la nouvelle dont était adapté le.
Non.
Non, je l'ai pas lu. Non.
Elle n'est pas disponible en français, vous savez pas?
Je sais pas, ça s'appelle Story of Your Life,
ouais,
si tu veux la chercher, mais je l'ai pas lu.
Qui était un très beau titre d'ailleurs, mais.
Oui, c'est.
Qui résume très bien d'ailleurs.
Oui, mais Villeneuve
vraiment...
n'aime que les titres en un mot.
Ouais. Non, mais oui, c'est vrai que ça, par contre, c'est un peu chiant si toi-même tu te dis je veux que les titres de mes films sur ma page IMDb ne fassent qu'un mot, et qu'il y ait des connards qui te disent. Parce qu'en plus, Premier Contact.
Ouais.
Un poster avec le gros plan de Amy Adams, ouais. Encore une fois, c'est pas pour me foutre de la gueule, mais ça ressemble vachement à Contact.
À mort, d'accord. À mort, quoi.
Et, enfin.
Mais même l'histoire reprend certains schèmes qu'on retrouvait dans Contact.
Mais Contact, il y a une putain de discussion.
Qui
est un bon film, d'ailleurs.
Qui est un bon film. Une putain de discussion entre Jeremy Renner et Lois Lane sur une Jeep.
Ouais.
En regardant le truc extraterrestre, c'est exactement.
Ouais.
Jodie Foster, Matthew McConaughey ou en haut d'une colline sur une voiture en train de regarder la construction dans le film de Robert Zemeckis.
Ça m'a donné envie de le revoir d'ailleurs.
Ouais, il faudrait que je le revoie parce que c'est vrai que quand j'étais petit, j'avais pas forcément. J'avais bien aimé, mais j'avais pas adoré. Et au final, je me rends compte maintenant que Contact, c'était vraiment la base des choses que j'adore dans Interstellar par exemple.
Ouais.
Tu vois.
Mais tu sais que c'est adapté d'un bouquin de Carl Sagan. Contact.
Ouais. Oui.
Voilà.
Ouais.
Qui était
vrai,
juste pour préciser, qui était un astrophysicien et donc, enfin, scientifiquement, c'était quelque chose de très
Très pointu. Ouais.
Et juste pour les auditeurs et peut-être pour vous, j'ai cherché là pendant qu'on parlait le nom de la série sur Sci-Fi, qui est adaptée d'une nouvelle de Arthur C. Clarke, et ça s'appelle Childhood's End, la fin de l'enfance, j'imagine que ça veut dire ça.
Ah, Childhood Ends,
ok. Voilà, sur Sci-Fi, et je vous le conseille vraiment. Je vous dis pas à quoi ressemblent des extraterrestres, mais j'ai très envie, mais je vous le dis pas. Mais il faut le voir parce que du coup, ce deal est. Je veux dire, on vous donne tout, mais demandez surtout pas à nous voir. Il y a un côté, tu vois, La Belle et la Bête. Il y a aussi un côté Gorgon, tu vois, ou un côté orphique. C'est-à-dire, je te donne la femme, ce que tu aimes le plus au monde, mais ne te retourne pas surtout, tu vois. Et donc, il faut le voir, c'est très, très bien. Très, très bien.
Merci à tous les deux.
Merci
et
à toi,
merci à tous ceux qui nous écoutent. Et puis, on se revoit dans le prochain épisode de fin de séance, alors.
Un bisou.
Au revoir. Salut Arnaud.
Ciao.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.